La terre invisible. Trois frères vivaient misérablement sur l'héritage paternel. Ils habitaient un pays froid et désolé. Leurs pauvres champs ne rapportaient que quelques poignées de seigle et quelques maigres légumes qui les empêchaient tout juste de mourir de faim. La hutte qu'ils habitaient tombait en ruine. Le vent entrait en maître par la porte mal fermée et par les pierres mal jointes. Ils demeuraient loin de toute cité. Ils n'avaient point de famille ni d'amis, nulle autre distraction que la vue des plaines immenses, bornées au loin par des montagnes inaccessibles, et les souvenirs rares et précieux du père et de la mère, morts depuis longtemps, qu'ils se contaient le soir près de l'âtre où brûlaient quelques feux de tourbe. Ils étaient à l'âge où l'on rêve, à l'âge où la nuée qui passe, le ruisseau qui court, l'étoile qui naît au fond du ciel, vous font baisser la tête ou lever le front, rire ou pleurer sans qu'on sache pourquoi. Et chacun d'eux au fond du cœur berçait des espérances insensées dont ils ne parlaient jamais entre eux. C'était chose sacrée qu'ils ne voulaient point exposer aux railleries des autres. Et pourtant chacun voyait bien, à certains airs, à certains regards, que ses frères avaient la même folie et qu'eux aussi nourrissaient leurs secrets. À invincibles aspirations, prophétie du cœur, ô voix de la nature, qui donc ose vous traiter de folie? Le rêve est fils ou père de la réalité? On ne rêve que ce qu'on a vu ou que ce qu'on verra? Le premier homme, errant sous les arbres du paradis, soupire et songe sans savoir pourquoi. Le ciel est pur, les fruits sont beaux, les parfums sont doux, tous les animaux sont ses esclaves. Que manque-t-il à son bonheur? Il ne le sait, car il s'ignore lui-même. De quelle folie est-il donc possédé? La folie d'aujourd'hui est la sagesse de demain. Demain, Ève naîtra de ses songes. Ainsi soupiraient ces jeunes hommes, après des choses qu'ils ne connaissaient pas, mais qu'ils sentaient confusément, chacun suivant son imagination et son cœur. Cependant, l'âpre labeur les consumait lentement. Et déjà paraissait sur le visage de l'aîné les signes d'une précoce vieillesse, d'une fatale et dégradante résignation, lorsqu'ils firent une rencontre extraordinaire. C'était un soir d'hiver. Un homme jeune et beau, au front grave, au pur regard, entra dans la cabane. L'ouragan grondait dans la plaine, le voyageur était transi et tout mouillé de pluie et de neige mêlée. Aucune parole de bienvenue ne l'accueillit pourtant, car les jeunes gens étaient devenus sauvages dans leur isolement. Mais il prit une chaise et s'assit au milieu d'eux, devant la flamme qui semblait devenue plus joyeuse et plus vive depuis qu'il était là. Pendant un moment, les quatre hommes restèrent silencieux. Aucun des jeunes gens n'osait interroger l'inconnu, car ils sentaient entre eux et lui une grande distance. Pour lui, d'un coup d'œil, il avait examiné la masure, pesé, sondé, mesurer cette misère, et maintenant son regard se reportait, plein de compassion sur les trois frères. « Que faites-vous ici ? » leur dit-il enfin. « Vous le voyez, » répondit l'aîné, « nous vivons ensemble sur l'héritage de nos parents, nous mangeons le pain noir que nous donne la plaine, nous buvons l'eau qui descend des montagnes, nous travaillons, nous rions quelquefois, nous nous querellons souvent, nous souffrons presque toujours. » Après cela, nous mourrons. » Il dit ces paroles d'un air sombre, et pourtant on voyait dans les yeux de ses frères le reflet d'une flamme intérieure qui n'était pas encore éteinte. « Je vous plains, » dit l'étranger. « N'avez-vous jamais rien connu de meilleur ?»« Non. » »« Et n'avez-vous jamais souhaité autre chose ?»« À quoi bon parler de cela ?» dit le second frère avec un rire désolé. Qu'importe ce qu'on souhaite ou ce qu'on rêve, nous sommes ici depuis notre naissance et la mort viendra nous y trouver. Et ne savez-vous pas, reprit le voyageur, que l'homme n'est pas fait pour une destinée pareille? Pourquoi vous y soumettre? Pourquoi rester attaché à ce sol ingrat, à ce climat si rude? Il y a d'autres pays que celui-ci. Nous n'en savons rien, dit le plus jeune. Mais je le sais, moi, qui suis un voyageur. Écoutez, non loin d'ici se trouve une vaste étendue d'eau qu'on appelle la mer. Nous en avons entendu parler, interrompit l'un des frères. Ceux qui l'ont vue et nous l'ont décrite en avaient peur. Ils disent que ses eaux sont amères, et que la nuit surtout elle hurle d'une façon épouvantable, comme si elle roulait dans leurs flots toutes les âmes des morts. Il est vrai que ces eaux sont amères, reprit le voyageur avec un sourire significatif. Je sais aussi ce que sont leurs tempêtes. Mais au-delà de la mer, il y a une autre rive. Vous en revenez peut-être ? Demanda curieusement l'un d'eux. J'en viens, dit l'inconnu. Et sur cette rive, le soleil brille toujours. Toutes les terres sont fertiles. Tous les hommes sont heureux. Là-bas gouverne un roi puissant et miséricordieux. Tous ses sujets sont ses enfants. Chacun possède une agréable demeure et ne forme pourtant qu'une famille avec tous les autres. La misère y est inconnue, et par-dessus tout, c'est le pays de l'amour. Les trois jeunes gens avaient levé la tête. Le visage du plus jeune était radieux. On eût dit que la flamme longtemps cachée dans son cœur était soudain montée à son front. Il reconnaissait, dans les paroles du voyageur, l'écho de ses propres pensées. Le second, lui aussi, se ranimait à ses espérances, à ses promesses, dites d'un ton grave et mesuré, avec l'accent de la vérité. Seul l'aîné secoua la tête et dit « C'est impossible ». Alors l'étranger tira de son manteau des objets tout nouveaux pour les trois frères. C'étaient les fruits d'or des climats fortunés, les diamants des pays de lumière. Le parfum des fruits remplit la chambre. L'éclat des diamants à la flamme du foyer illumina la cahute sordide. Les jeunes gens regardaient ces choses d'un œil stupide. Rien de pareil n'avait jamais frappé leur sens. Les étoiles elles-mêmes n'avaient pas l'éclat de ces pierres, et ces fruits dont ils goûtèrent leur parurent tomber jusqu'à eux de quelque table divine. « Votre pays produit-il des choses pareilles ?» demanda l'étranger au frère aîné. « Vous voyez bien que ma patrie est plus belle que la vôtre. » Aucun des trois interlocuteurs ne répondit, et le voyageur continua. « Je suis envoyé par le roi de ce pays. Il sait que de ce côté de la mer se trouvent des hommes malheureux, et il les appelle dans son royaume. Je viens de sa part, en ces parages désolés, enrôler des émigrants pour la rive heureuse. Venez, rien ne vous retient ici. Là-bas tout vous attire. Laissez cette hutte aux bêtes des champs et suivez-moi. Chacun de vous, en ce pays nouveau, trouvera l'emploi de ses facultés, de ses forces, et les sentira se développer. Vous vivrez ensemble, et de plus, ajouta-t-il, et sa voix prit une inflexion plus douce. Là-bas, vous rencontrerez enfin l'être attendu et désiré, l'être mystérieux qui flotte, insaisissable et voilé en tous vos rêves, depuis que vous êtes parvenu à l'âge d'homme. Les trois jeunes gens se levèrent. « Comment savez-vous ? » « Je sais, » répondit-il en souriant. « Venez. » La nuit s'était écoulée en ces entretiens. L'orage avait cessé et le ciel, plus clément, semblait sourire à la terre. Les trois frères hésitèrent un instant, mais à l'idée de reprendre leur morne travail et de laisser partir pour jamais peut-être l'occasion qui se présentait enfin, le plus jeune cria le premier « Je te suivrai, étranger, jusqu'à cette terre fortunée. » « Voudrais-tu nous tromper ? D'ailleurs, j'ai besoin de te croire. » Et le second dit « J'irai aussi. » L'aîné secoua la tête comme pour dire « Mais il faut bien que je m'accommode à leur faiblesse. » Et sans prononcer un mot, ferma la porte de la cabane. Ainsi, dès le matin, tous les quatre se mirent en route. Ils marchèrent longtemps jusqu'à l'extrémité de la vaste plaine, jusqu'au sommet des montagnes qui bornaient l'horizon. Ils y arrivèrent comme le soleil descendait. Ils poussèrent un cri d'étonnement et d'admiration, car sous leurs pieds s'étendait la vaste mer, baignant la base de la montagne. À cette hauteur, son mugissement ne leur parvenait que comme un faible murmure, et les grandes vagues ne leur apparaissaient que comme de petites taches blanches. La grandeur du spectacle les tint immobiles et muets, mais bientôt leurs yeux fouillèrent l'horizon. Rien, rien que des flots, et encore des flots jusqu'à ce que le ciel touche à l'onde, murant ainsi devant leurs yeux avides la porte des pays merveilleux qu'ils avaient espéré de voir. « Où donc est l'autre rive ?» demanda tristement le plus jeune. « Il n'y en a pas, » répondit l'aîné. « « Étranger, tu nous as trompés !» Ils parlaient ainsi parce qu'ils étaient ignorants. Ils ne savaient pas que les plaines de l'onde sont plus étendues que celles de la terre. Ils ne savaient pas que l'atmosphère est opaque et que la terre est ronde. Ils ne pensaient pas à cette loi si simple et si universelle qui veut que la distance rende toute chose invisible. Mais l'étranger ne se courroussa pas contre eux. Il leur dit simplement « Je ne vous ai pas trompé, il y a une autre rive. Vous ne pouvez la voir parce qu'elle est trop éloignée. La mer est plus vaste que vous ne croyez. C'est un mystère que le regard de l'homme ne sonde pas. D'autres causes que vous ne pouvez comprendre encore vous cachent cette terre. Mais si vous me suivez, vous la verrez bientôt. Même avant que d'y arriver, quand cette montagne aura disparu derrière vous, vous apercevrez d'autres montagnes en avant du navire, car on ne voit jamais un rivage qu'après avoir quitté l'autre. » En parlant ainsi, son doigt leur montrait dans une baie un navire qui se balançait sur ses ancres. « Tout à l'heure, ajouta-t-il, il nous faudra partir, il n'y a pas une minute à perdre. » Alors l'aîné des frères prit la parole. « C'est assez avoir abusé de notre crédulité, étranger. Tu ne me conduiras pas plus loin. Quoi ? Je laisserai ma maison et mon champ pour me lancer sur un abîme, à la suite d'un inconnu et à la recherche d'une rive invisible ? Folie que tout cela. Une terre nouvelle n'est pas comme un nuage qui passe et disparaît. Si elle existe, on doit la voir. Montre-la-nous, si tu veux que nous croyons en toi. Le sol que je foule aux pieds est plus solide que celui que tu m'offres, et je m'y tiens, » ajouta-t-il en montrant avec ironie la mer agitée. Et, en parlant ainsi, il tourna le dos et redescendit rapidement la montagne du côté opposé à la mer. « Et vous ?» demanda tristement l'étranger en se tournant vers les deux frères. « Voulez-vous renoncer aussi à la terre nouvelle ?»« J'irai avec toi, » dit résolument le plus jeune. « J'irai, » dit simplement le second. Ils arrivèrent au bord de la mer et près du navire. Tandis qu'ils approchaient, le mugissement des flots devenait plus bruyant, plus effrayante la hauteur des vagues. Cependant, ils ne reculèrent pas. Déjà, l'étranger s'apprêtait à monter à son bord, suivi du plus jeune des frères. Mais l'autre s'arrêta sur la plage et dit « J'irai, mais pas avec toi. »« Viens, ma barque est assez grande. Il y a place pour vous deux, place pour 100 autres passagers. Viens, l'heure presse, la marée monte, il faut partir. » « J'irai seul, » répondit le second frère. « Je ne veux pas te suivre en esclave, être dans ce navire comme dans une prison. Qui me dit d'ailleurs que tu me mèneras sûrement ? Je saurais bien me faire un esquif, une voile, je saurais bien trouver ma route. Je suis jeune et fort, je ne suis pas un mendiant. Je veux devoir à moi seul ma fortune, et si je débarque jamais sur l'autre plage, je veux seul en avoir tout l'honneur. » « Insensé ! » s'écria le voyageur. « Sais-tu ce que tu vas affronter sur ton esquif misérable ? Es-tu fait comme moi aux colères de l'océan ? Sais-tu quelles bienveillantes étoiles guident le matelot ? Sais-tu la distance ? Sais-tu la route ? Sais-tu le port ?» Mais l'autre ne répondit point et s'apprêta à radouber sur le sable une épave, une barque désemparée jetée là par les flots. « Ne vois-tu pas, lui cria l'inconnu, ne vois-tu pas que ton esquif est un débris des naufrages précédents ? Comment échapperas-tu mieux que ceux qui ont péri avant toi ? Ne demande pas à la mort de te conquérir la vie. Viens, pourquoi te tromperais-je ? Je suis ton ami et non ton maître. Mon navire n'est pas une prison. Ah, si tu veux arriver au pays des fruits d'or, à la terre des diamants, si tu veux, ajouta-t-il avec une voix pleine de larmes, embrasser enfin la vision longtemps désirée, « Laisse là ton misérable radeau comme tu as laissé ta cabane. Suis-moi, suis-moi !» Le jeune homme resta sourd à cette voix qui dominait, puissante et douce, le bruit du vent et des vagues. Il ne l'entendit point. « Partons, » dit alors le capitaine. La traversée fut courte. Il y eut une tempête, mais soutenu par son chef, le dernier des trois frères la traversa victorieusement. Il la vit. Il la salua à la rive heureuse, la terre bénie. Les douleurs de la séparation, les maux de la traversée furent oubliés dans ce premier regard. Il la vit, il l'embrassa, l'immortelle beauté, la vision si longtemps insaisissable. L'aîné mourut sous les ruines de sa cabane, après avoir dit longtemps que ses frères étaient morts. Quant au second, on ne sut jamais ce qu'il était devenu. Ces trois frères sont l'humanité. Le pays où ils souffrent, c'est la terre de péché que nous habitons. Leur rêve, c'est d'être juste, d'être heureux, d'être immortel. L'inconnu, c'est Jésus-Christ. Les diamants et les fruits d'or de la terre nouvelle, il les a montrés au monde, il les a répandus sur la terre. C'est la charité et la justice, c'est la grâce et la vérité. L'océan, c'est la vie, et c'est aussi la mort, car ce que nous appelons mourir, Dieu l'appelle vivre, et ce que nous appelons vivre, Dieu l'appelle mourir. Le navire, c'est la croix du Christ. La rive, c'est le ciel. L'aîné des frères, c'est l'homme qui préfère le présent à l'avenir, les prétendues certitudes d'aujourd'hui aux promesses de demain, le visible à l'invisible. Il meurt sous les ruines des choses qu'il a aimées. Le second, c'est l'homme qui veut traverser seul la vie et affronter la mort sur ce radeau formé d'épaves, ses propres mérites, ses propres vertus, sa propre justice. Il mourra entre les deux rives, trop croyant pour trouver son bonheur sur la terre, pas assez pour arriver au ciel. Le plus jeune, c'est le chrétien. Il croit au Christ, sur la foi des choses merveilleuses qu'il a montrées au monde, sur la foi de ses paroles, dont l'accent ne trompe pas, sur la foi de sa résurrection. Il croit à l'expiation accomplie sur la croix. Il compte sur les mérites du Sauveur pour lui ouvrir le ciel. Il le suit jusqu'au bout. Il traverse avec lui la vie, cette mer et la mort, cette tempête. Puis il arrive au port où la vie éternelle, ce rêve de la terre, l'attend et le reçoit dans ses bras.